Voici une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Est-ce qu'une personne qui ne se confie pas en Dieu est sujette à l'inquiétude? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui va nous encourager à marcher avec Dieu. Aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois que les questions qu'on a pour la parole de Dieu sont importantes à considérer pour tous les croyants, et même pour les non-croyants. Je vous invite tous à demeurer avec nous jusqu'à la fin de l'émission. L'enseignement de Dieu va sûrement toucher nos cœurs. Alors voici les questions. Est-ce que Dieu approuve les concours de beauté? Est-ce que Dieu peut nous utiliser à notre insu si nous ne marchons pas dans ses voies? Est-ce qu'il arrive à Dieu de prendre la situation en main quand ses enfants agissent en dehors de sa volonté? Quelle sorte de témoignage est-ce qu'un croyant rend quand il ne fait pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'une personne qui ne se confie pas en Dieu est sujette à l'inquiétude? Est-ce un fait que ceux qui s'éloignent de Dieu deviennent plus matérialistes? Quelle est la différence entre le monde et le royaume de Dieu? Quelle est la récompense pour le chrétien qui sert Dieu de tout son cœur? Restez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à toutes nos questions dans quelques instants. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu. Exprimons-lui notre reconnaissance. Prions. Ô Seigneur mon Dieu, nos cœurs sont reconnaissants devant toi aujourd'hui. C'est une belle journée parce que toi, tu es présent dans notre vie. Enseigne-nous ta parole aujourd'hui. Apprends-nous à te servir comme des enfants de Dieu qui agissent selon la dignité de leur Dieu merveilleux. Enseigne-nous ta parole, mon Dieu. Nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es notre Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le plan que Dieu a tracé pour l'histoire de l'humanité s'accomplit par sa providence. Le roi Xerxès convoque tous les grands de son royaume, car il désire conquérir la Grèce. Il étale sa richesse afin que tous voient qu'il peut se payer une armée puissante. À la fin du plus grand banquet de l'histoire, le roi s'enivre et convoque la reine Vasti afin de montrer sa beauté à tous ses convives. Elle refuse de se présenter devant le roi et ses invités. Le roi convoque ensuite son cabinet, et Mémucane recommande la destitution de la reine afin que cela serve d'exemple aux autres femmes. Cependant, le roi Xerxès a échoué dans sa tentative de conquérir la Grèce. Il comptait sur le grand nombre de ses soldats, mais les soldats grecs étaient mieux entraînés. Nous voyons dans cette défaite la providence de Dieu. En effet, dans une vision accordée au prophète Daniel, Dieu avait annoncé que la prochaine puissance mondiale serait la Grèce. Mémucane a proposé au roi d'organiser un concours de beauté afin de choisir une nouvelle reine. Ceci aurait pu se produire après la défaite aux mains des Grecs. Chers amis, débutons notre lecture du livre d'Esther, chapitre 2, verset 4. « Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. » Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. C'est uniquement le roi qui déterminerait quelle femme lui plairait davantage que les autres. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Jusqu'ici, ce que nous avons lu du livre d'Esther n'était que pour nous situer dans le contexte d'une cour orientale. Nous avons vu ce qui s'y est passé ainsi que la raison d'être du concours de beauté et de l'arrivée d'Esther au trône avec le titre de reine. Parce qu'elle est devenue reine, elle a pu intercéder en faveur de son peuple. Tout son peuple aurait été exterminé si elle n'avait pas été choisie par Assuérus. Jusqu'ici, il ne s'est rien produit de spirituel dans le palais du roi. Personne ne cherchait Dieu ni sa gloire. Des orgies furent organisées, mais Dieu est sur le point d'intervenir. Nous allons le voir à l'œuvre par sa providence. Il organise les événements afin qu'en son temps, qu'en temps opportun, une personne sera en place pour intercéder pour son peuple, soit les Juifs. Nous voyons cela aussi dans le Nouveau Testament, l'intervention divine, entre autres dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Dieu a dit qu'un jour il visitera. Peut-être que c'est la journée de visite pour toi, cher ami. Dieu est en train de te visiter. La providence de Dieu, Dieu est à l'œuvre, Dieu agit, même lorsqu'on ne le voit pas. Revenons à notre histoire du livre d'Esther. Le fait que ces hommes organisent un concours de beauté, ça ne veut pas dire que Dieu l'approuve. Quelqu'un peut être tenté de dire que Dieu approuve les concours de beauté du genre Miss Canada, America ou Miss Univers. Je ne pense pas que ce soit le cas. Cependant, mes amis, lorsqu'un enfant de Dieu ne marche pas dans sa volonté, il permet que des choses qu'il n'approuve pas se produisent. À travers ces événements, il va accomplir son plan et déjouer ceux du monde. La puissance de Dieu pour accomplir son plan est une des leçons importantes du livre d'Esther. De nombreux chrétiens vivent sur la ligne de démarcation entre ce qui est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu qui les dirige. Ils ne marchent pas de façon consciente dans les voies de Dieu. Cependant, Dieu les dirige par sa providence. Esther illustre cette vérité. En fait, notre histoire débute vraiment avec l'entrée en scène de Mardochée, un Benjamite. La question que l'on peut poser est celle-ci. Que fait-il ici? Il vient d'une famille royale d'Israël, il était de la famille de Saül. Poursuivons notre lecture. Esther chapitre 2, verset 6. Qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Dieu avait permis à son peuple de retourner dans leur pays tel que prophétisé par Ésaïe. Cyrus avait émis un décret leur permettant de rentrer en Palestine. Ceux qui désiraient obéir à Dieu retournèrent donc dans leur pays. Le plus grand nombre s'était taillé une place dans leur pays de captivité. Ils avaient des commerces et des situations qu'ils n'étaient pas disposés à abandonner. Ils étaient satisfaits de leur sort. Et lorsqu'ils ont eu la possibilité de retourner en Palestine, ils ont préféré demeurer là où ils étaient établis. Mardochée était un de ces Juifs qui était hors de la volonté de Dieu. Il avait une situation intéressante dans le gouvernement. Il a préféré garder sa position plutôt que de retourner en Palestine. Dieu peut nous utiliser à notre insu si nous ne marchons pas dans ses voies. Joseph aussi avait une situation politique intéressante en Égypte. Cependant, il marchait selon la volonté de Dieu. Daniel, qui occupait un poste à la cour de Babylone, accomplissait aussi la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le cas de Mardochée. Il n'obéissait pas de façon consciente à Dieu, même s'il est là par la providence de Dieu. Mardochée sera utilisé par Dieu, même s'il ne marche pas avec lui volontairement et qu'il ne recherche pas le secours divin. Nous nous serions attendus à ce que le peuple se tourne vers Dieu devant ce grand danger, mais il ne le fit pas. Le nom de Dieu et le sujet de la prière ne sont même pas mentionnés dans ce livre, car ce peuple n'est plus dans la volonté de Dieu. Oui, chers amis, la désobéissance de l'homme n'empêche pas Dieu d'agir selon sa volonté. Mardochée et Esther n'entrent pas en scène sous leurs meilleurs jours, quoiqu'ils aient de belles qualités, comme nous le verrons plus loin dans le récit. Mardochée a dû être amené en captivité à un jeune âge lors de la deuxième vague de déportation de Jérusalem. La déportation se fit sous le règne de Josiakim. Lors de la première déportation, ce fut les princes et les nobles et l'élite sociale qui furent amenés en captivité. Le prophète Daniel faisant partie de ce groupe. La classe moyenne supérieure fut déportée lors de la deuxième vague. Mardochée fit partie de ce groupe. Après la troisième déportation, lors de la destruction de Jérusalem, ce sont les gens des classes inférieures qui demeurèrent dans le pays. Mardochée avait une jeune cousine dont les parents furent peut-être tués lorsque Nebuchadnezzar prit la ville. De nombreuses personnes périrent à cette occasion. Revenons au texte, et cette fois lisons le verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car il n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Le mot hébreu d'Esther était Hadassa, qui signifie « étoile ». Selon les Écritures, elle était une étoile et une très belle femme. Mardochée l'avait adoptée. Son grand atout était sa beauté. Lorsqu'on annonça qu'Assuérus cherchait une nouvelle reine, cela intéressa Mardochée. Sa situation au palais lui permettait probablement de voir les filles qui étaient amenées de toutes les provinces du royaume. Il a dû se rendre compte qu'aucune de ses filles n'était aussi belle que sa fille adoptive. Versets 8 et 9. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. La providence de Dieu est à l'œuvre, chers amis. Oui, nous pouvons voir la providence de Dieu en action dans cette situation. Mardochée inscrivit sa nièce à ce concours de beauté. À ce point-ci, je n'ai pas trop de respect pour cet homme. Plus loin, alors que la suite des événements se déroulera, je changerai d'avis, mais présentement, je ne l'admire pas pour ce qu'il fait. Premièrement, il désobéit à Dieu, qui a interdit à son peuple d'épouser des personnes de nations étrangères. Il viole la loi mosaïque en inscrivant Esther à la compétition dans l'espoir qu'elle deviendra la prochaine reine. Les filles qui ne seront pas choisies comme reines seront envoyées au harem du roi et serviront de concubines. C'est ce qui serait arrivé à Esther si elle n'était pas devenue reine. Elle n'aurait pas eu une vie épanouissante et Mardochée a pris le risque que cela se produise. Nous voyons que Dieu prend la situation en main. Esther fut conduite à la maison du roi. Elle plut à Égaï, le gardien des femmes. Il lui accorda des privilèges et il pourvut tout ce dont elle avait besoin pour être belle le jour de sa comparution devant le roi. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Or, des voix de Dieu, nous témoignons très peu. Rappelez-vous que les Juifs étaient un peuple captif et qu'il y eut toujours des sentiments antisémites chez les nations du monde. C'était le cas dans le royaume perse. En lisant la destruction de Jérusalem, vous voyez comment Nebuchadnezzar haïssait ce peuple. C'est lui qui les a amenés à Babylone, mais il n'est plus là. Le peuple est maintenant entre les mains d'une autre nation. Cependant, les sentiments antisémites subsistent. Mardochée est conscient de cette haine et il avertit Esther de ne pas révéler sa nationalité. Ce silence est équivalent à un reniement de sa religion, car ce peuple fut toujours associé à Dieu au cours des années. En niant leur nationalité, Mardochée et Esther reniaient leur religion. En demeurant dans le pays de leur captivité, ils n'agissaient pas selon la volonté de Dieu. Encore aujourd'hui, lorsque les hommes et les femmes ne marchent pas selon la volonté de Dieu, ils ont peu de choses à dire au sujet de leur foi en Jésus-Christ. Un témoignage peu efficace. Verset 11. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Celui qui ne se confie pas en Dieu est sujet à l'inquiétude. Lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, nous savons que toute chose concourt à notre bien. Mardochée ne s'appuie pas sur Dieu, car il ne lui obéit pas. Il surveille ce qui se passe dans la cour des femmes, car il est inquiet au sujet d'Esther. Il se demande comment tout finira. Il se demande s'il n'a pas fait une grosse erreur en inscrivant Esther à ce concours. Il s'inquiète à cause de ce qu'il a fait. Il éprouve de la difficulté à dormir. Il souffre d'insomnie. C'est maintenant l'état dans lequel se trouve Mardochée. Lorsque nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas avoir confiance que tout ira bien. À ce moment, Mardochée ne peut remettre son fardeau dans les mains de Dieu. Je ne suis pas certain s'il savait quoi que ce soit au sujet de la providence de Dieu. Cependant, Dieu va utiliser les événements pour accomplir ses plans. La providence, c'est la façon que Dieu guide un homme qui ne veut pas être guidé par lui. Nous commençons à percevoir la main de Dieu derrière les événements. Ce n'est pas par hasard qu'Esther devient la favorite d'Égaï et qu'il lui accorde des privilèges et des faveurs. Avec Dieu, il n'y a ni chance, ni accident. Notez comment les jeunes filles étaient traitées. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Plus nous nous éloignons de Dieu, chers amis, plus nous sommes matérialistes. Ne vous plaignez pas si votre femme va souvent chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne. Elles n'y vont que pour quelques heures à la fois. Ces jeunes filles y passèrent toute une année, chers amis. L'accent est mis sur la beauté physique, ce qui est typique des cultures païennes. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus les commerçants vendent des produits de beauté pour le corps et l'esthétique. Avez-vous déjà remarqué cela? Les filles conduites à la maison du roi eurent droit à 1 an de traitement de toutes sortes. Les femmes ont très peu changé au cours des siècles. Les filles participant à des concours consomment des tonnes de maquillage. Les femmes ne se privent pas de maquillage de nos jours. Cependant, Esther n'aurait pas dû participer à la compétition et nous verrons qu'elle n'avait pas besoin de maquillage. Elle était belle de nature. Un jour, une dame vint voir le pasteur Megui, le pasteur dont nous adaptons les textes, car elle trouvait que les filles se mettaient trop de maquillage. Elle croyait qu'une fille chrétienne ne devrait pas en porter. Elle le mit dans une position délicate en lui demandant ce qu'il en pensait. « Bien, cela dépend de la personne, » répondit Megui. « Un peu de maquillage ferait du bien à plusieurs femmes, et je crois que nous devrions faire notre possible avec ce que Dieu nous a donné. » Elle le prit personnellement, et elle avait des raisons de le faire. « Un petit peu de maquillage, madame, vous ferez beaucoup de bien. » Écoutons le texte biblique, tiré de 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 5, au sujet du maquillage et de cette apparence extérieure. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. » Dans le cas d'Esther, dans sa providence, Dieu permit que tous ces événements se produisent. C'est selon la volonté de Dieu qu'Esther fut candidate pour devenir reine et qu'elle attira l'attention d'Égaï, le gardien des femmes. Il se rendit compte qu'Esther pouvait gagner, et il la fit passer avec les autres. C'était une étape du plan de Dieu. Ce ne fut pas un accident. Dieu guidait sa vie par sa providence. Versets 13 et 14. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et, quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shashkaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Après un an de préparation, la jeune femme allait vers le roi. Elle pouvait prendre tout ce qu'elle désirait avec elle. Ce serait bientôt le tour d'Esther de se présenter devant le roi. Elle prenait une grosse chance. Si elle n'était pas choisie, elle deviendrait une simple concubine du roi de Perse, ce qui aurait été un sort horrible pour une jeune juive. C'est pourquoi Mardochée s'inquiétait d'Esther. Il sait qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, et il est conscient du fait qu'Esther, qu'il a élevée, prend une très grosse chance. Mais Dieu a la situation en main. Fort heureusement. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Hegaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Lorsque vint son tour, Esther décida de miser sur sa beauté naturelle. Elle était si belle que se peindre le visage avec du maquillage ne l'avantageait pas. Elle n'avait pas besoin de bijoux pour accentuer sa beauté. Tous percevaient qu'elle pouvait être choisie par le roi. Elle surclassait toutes les autres filles par sa beauté. Est-ce que Dieu est derrière tout cela? Oui, il agit par sa providence. Il la fera asseoir sur le trône à côté du roi, car si elle n'y monte pas, tout son peuple périra. Si le peuple avait péri, Dieu n'aurait pas été fidèle à sa parole, et il était impossible qu'il en soit ainsi. La différence entre le monde et le royaume de Dieu. Nous voyons une image de la différence entre le monde et le royaume de Dieu. Les nombreuses filles présentées au roi se sont maquillées et elles portaient les plus beaux bijoux. Elles se préparèrent longuement pour obtenir la faveur d'un seul homme, le roi. Tout ce qu'elles ont obtenu, c'est de paraître belles à leurs yeux et avoir une nuit d'espoir. Elles purent voir le roi, mais leurs espoirs furent aussitôt éteints. Elles devinrent des concubines dans son harem. Elles ne virent plus le roi et leur vie cloîtrée devint monotone. Elles ne purent jouir du bonheur d'élever une famille ou de s'épanouir dans un autre mode de vie. Elles ne purent atteindre leur objectif, et elles n'obtinrent aucune compensation. Il en est de même pour le monde qui cherche sécurité et satisfaction dans les biens matériels. Ils jouissent des plaisirs du monde pour un bref moment, pour ensuite passer l'éternité loin de Dieu. Par contre, Esther ne chercha pas sa satisfaction dans les choses du monde. Elle ne prit que ce qui lui fut imposé. Elle parut belle, non seulement à ses yeux, mais aux yeux de tous. Son espoir et son bonheur ne furent pas éphémères. Elle obtient davantage que ce qu'elle aurait pu espérer de sa situation sociale. Elle devint reine. Elle est une illustration de l'enfant de Dieu qui éprouvera encore plus de bonheur qu'elle. Le chrétien qui désire servir Dieu de tout son cœur, même si c'est comme un simple portier, sera élevé et deviendra le bien-aimé de Dieu. Il jouira de la présence de Dieu pour l'éternité, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où il n'y aura pas de souffrance. Dieu adopte ceux qui viennent à lui. Ils deviennent ses enfants, et ils font partie de sa famille. Ils sont transformés dans le royaume du Fils de son amour, et ils règnent avec lui pour toujours. Es-tu son enfant? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant Esther chapitre 2, verset 16, à chapitre 3, verset 6.
Merci, Régent. Mes amis, on a pu voir aujourd'hui à quel point il est important pour chacun de nous de ne jamais nous éloigner de Dieu. quand je pense que j'ai été bien loin de Dieu jusqu'à l'âge de 30 ans et que je ne le réalisais même pas. Je pouvais bien être malheureuse. Je pouvais bien passer mon temps à m'inquiéter de mon sort. Et maintenant que je suis une enfant de Dieu, quand il m'arrive le moindrement de m'éloigner de mon merveilleux Sauveur, il sait comment me ramener. Il permet que mon cœur soit triste, que mon âme soit abattue. Et soudain, je m'en rends compte, je me repens et je tourne vers lui les regards. Et vous savez ce qui arrive quand on fait ça? C'est écrit dans le psaume 34 au verset 6. C'est David qui dit, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Avant de connaître Dieu, je vivais justement dans la honte à cause de mes péchés. Et quand Dieu m'a révélé que j'étais une pécheresse perdue, et que Jésus était venu pour sauver les pécheurs, je me suis repenti. J'ai soudain eu dédain pour mes péchés. J'ai demandé à Dieu de me pardonner et j'ai placé toute ma confiance en Jésus seul. Il m'a sauvé du châtiment que je méritais pour mes fautes. Il m'a donné la vie éternelle. Quel beau cadeau! Mon ami, dans le même psaume, le psaume 34, au verset suivant, le verset 6, David dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Es-tu dans la détresse présentement? Savais-tu que Dieu est accessible en tout temps? Il n'est pas un genre de grand bonhomme que personne ne peut atteindre. Tu peux crier à lui. Oublie toutes les prières que tu as apprises par cœur quand tu étais jeune. Parle à Dieu. Parle-lui avec respect, mais parle-lui. Tu peux crier, lui exprimer ta détresse. Il entend. Il a compassion de toi. Il veut rétablir sa communion avec toi. Il veut pardonner tes péchés. Le psaume dit qu'il veut te sauver de toutes tes détresses. Mon ami, la pire détresse pour l'être humain, c'est que ses péchés ne soient pas encore pardonnés. Mais Dieu, dans son amour, te donne le moyen d'être entièrement pardonné. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique qui est venu mourir à la croix pour payer la dette de tes péchés. Tu n'as qu'à croire en Jésus. Puis au lieu de périr, au lieu de recevoir le châtiment éternel qu'on mérite tous, parce qu'on est tous des pécheurs, il va te donner la vie éternelle. Réalises-tu que tu es un pécheur, une pécheresse, perdue? Dans son épître aux Romains, au 3e chapitre, verset 23, Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, ne te prive pas de la gloire de Dieu. Ne t'en prive plus un seul instant. Ne choisis pas le châtiment éternel, choisis la vie éternelle. Repens-toi, change de direction. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui ce beau cadeau, la vie éternelle.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Ouais.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
ouais,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Ouais. Oh, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller, car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance,
alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone
en composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.